Les Philistins prirent le coffre de Dieu et l'emportèrent d'Eben-Ézer à Ashdod. Les Philistins prirent le coffre de Dieu, ils l'amenèrent à la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Ashdodites se levèrent de bon matin. Dagon était tombé face contre terre devant le coffre du Seigneur. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Dagon était tombé face contre terre devant le coffre du Seigneur. La tête de Dagon et ses deux mains gisaient, détachées, sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent pas sur le seuil de Dagon jusqu'à ce jour. La main du Seigneur se fit pesante sur les Ashdodites. Il sema la dévastation parmi eux et les frappa de tumeurs, à Ashdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Ashdod dirent « Le coffre du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il nous traite durement, nous et Dagon, notre Dieu. » Ils firent chercher et rassemblèrent auprès d'eux tous les princes de la confédération des Philistins. Ils dirent « Que devons-nous faire du coffre du Dieu d'Israël ?» Ils répondirent « Que le coffre du Dieu d'Israël soit transféré à Gath. » On y transféra donc le coffre du Dieu d'Israël. Mais après ce transfert, la main du Seigneur fut sur la ville, et ce fut une panique terrible. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent une éruption de tumeurs. Alors ils envoyèrent le coffre de Dieu à Écron. Lorsque le coffre de Dieu entra dans Écron, les Écronites s'écrièrent. « On a transféré chez nous le coffre du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Ils firent chercher et rassemblèrent tous les princes de la confédération des Philistins. Ils dirent « Renvoyez le coffre du Dieu d'Israël, qu'il retourne à son lieu et qu'il ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car dans toute la ville, c'était une panique de mort. La main de Dieu s'y faisait très pesante. Ceux qui ne mouraient pas étaient atteints de tumeurs, et les appels au secours de la ville montaient jusqu'au ciel.
Voilà, je ne sais pas si certains ont ce texte affiché dans leur chambre ou près de leur table de chevet. On dit qu'une image vaut mille mots. On dit parfois que cette célèbre image, issue donc de la guerre du Vietnam, parle entre guillemets plus que des livres entiers à propos de cette guerre. Dans le genre des images insolites, il y a celle-ci aussi. Alors, je suis désolé, c'est flou. En fait, c'est l'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev qui fait une pub pour Pizza Hut. C'était au début des années 90. C'est pas mal non plus. Une image qui parle, qui en dit long, hein, sur un changement de régime, un changement de système économique. Les symboles parlent donc. Et ils nous parlent, on va revenir là un instant, ils nous parlent de la réalité. C'est pour ça que les symboles, justement, nous frappent. C'est ça qui fait leur force. Et le texte de ce soir nous le montre de diverses manières. Alors, la semaine dernière, Paul nous a montré, à la lumière du chapitre 4, que Dieu n'entre pas dans les schémas de la superstition humaine. Et on a constaté une double erreur. Il y a l'erreur des Israélites qui croyaient que Dieu pouvait être manipulé comme une vulgaire idole et que le simple fait d'avoir avec eux le coffre de l'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu et son alliance avec le peuple, le simple fait d'avoir ce coffre avec eux, ça serait suffisant pour garantir que tout irait bien et notamment qu'ils auraient des victoires militaires contre leurs ennemis. Un peu comme si Dieu pouvait être instrumentalisé comme une formule magique. Alors bien sûr, avec des faux dieux faits à l'image des hommes, on peut avoir l'impression que ça marche comme ça, on peut les faire dire ou les faire faire entre guillemets ce qu'on veut. Mais avec un vrai Dieu qui est le créateur des hommes et qui nous a créés à son image, ben ça ne marche pas comme ça. Les Israélites, dans un sens, donc, ont confondu le symbole et la réalité. Ce n'est pas parce qu'ils avaient le coffre de l'Alliance que Dieu approuvait leur conduite et que Dieu se rangeait de leur côté. Parallèlement, on a vu que les Philistins, leurs ennemis à l'époque, ont fait la même erreur. Ils ont confondu leurs idoles avec le seul vrai Dieu. Et par conséquent, ils ont pensé qu'en prenant le coffre de l'Alliance avec eux et en le plaçant à côté de leur idole nationale, en quelque sorte, Dagon, je vais le prononcer à la française, Dagon. Ils se sont dit que ça serait tout bénéfique pour eux et qu'ils pourraient avoir donc un surcroît de puissance de leur côté. Alors nous aussi, dans notre contexte, nous pouvons parfois faire l'erreur de penser que, alors c'est peut-être un peu plus subtil, mais de penser que nous pouvons manipuler Dieu un peu comme un porte-bonheur, lui faire dire, entre guillemets, ou on croit lui faire dire, ce que nous voulons. Mais la Bible renverse de tels schémas. Et ce soir, donc, nous poursuivons avec le chapitre 5 qui nous montre la suite de l'histoire. Et dans ce petit chapitre, nous voyons Dieu qui remet les pendules à l'heure et qui se révèle comme un Dieu vivant et vrai, et non pas comme une vulgaire idole. Et je vous propose d'y réfléchir en deux parties ce soir. D'abord, le verdict de Dieu sur l'idolâtrie humaine, les versets 1 à 5. Et ensuite, la présence de Dieu, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Donc, premièrement, le verdict de Dieu sur l'idolâtrie humaine. Alors, au début du récit, les Philistins sont tout contents parce qu'ils ont gagné la bataille et ils ramènent comme un trophée le coffre de l'Alliance de Dieu. Alors, pour rappel, ce coffre de l'Alliance ou arche de l'Alliance ou coffre de Dieu, comme le dit ce texte, était placé au centre du tabernacle, donc la tente de la rencontre, selon le rite qui avait été institué par Moïse, selon les commandements de Dieu dans le désert. Et cette tente était vraiment le lieu symbolique de la présence de Dieu. Donc pour Israël, vous imaginez le traumatisme de perdre ce qui représente par excellence la présence de Dieu parmi eux. C'est un peu, si j'ose faire cette comparaison, comme lorsqu'il y a eu la chute des tours jumelles à New York. Mais c'est pire encore. Alors, parce qu'il ne s'agit pas tant d'un symbole national, symbole un peu de fierté nationale, que du symbole d'une relation entre ce peuple et le Dieu créateur. De fait, la capture du coffre de l'Alliance s'est accompagnée d'événements dramatiques, et on le voit à la fin du chapitre 4. On assiste à un vrai effondrement, il y a le coffre de l'Alliance donc, qui est capturé, le grand prêtre meurt, ses fils et héritiers meurent aussi la même journée, et 30 000 hommes israélites meurent en bataille. Imaginez, c'est un drame d'une ampleur terrifiante, surtout à l'échelle de la population à l'époque. Or, la perte du coffre de l'Alliance, c'était effectivement très grave, mais pas forcément pour les raisons que les Israélites imaginaient. Ce n'est pas que Dieu soit parti. Dieu est souverain et omniprésent, justement, c'est le seul vrai Dieu. Et ce n'est pas parce que le coffre de l'Alliance n'est plus là que Dieu n'est plus là. Mais si Dieu a permis que les ennemis d'Israël prennent le coffre de l'Alliance, c'est mauvais signe quant à l'état de la relation entre le peuple et son Dieu. Les Israélites, en fait, s'attendaient à ce que Dieu juge les Philistins, leurs ennemis, mais en fait, le Dieu d'Israël juge son peuple, ce peuple avec lequel il est entré en alliance. Et comme on l'a vu la semaine dernière, il est prêt à passer par une défaite apparente pour exercer le jugement contre son peuple et pour manifester qui il est véritablement. Dieu a donc permis que le coffre de l'Alliance soit confisqué de la tente de la rencontre, confisqué par les Philistins. Et c'est ce qu'on voit au début du texte, versets 1 et 2. Les Philistins prirent le coffre de Dieu et l'emportèrent d'Eben-Ézer à Ashdod. Les Philistins prirent le coffre de Dieu et l'amenèrent à la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Alors cette divinité, Dagon, est d'ailleurs bien connue des archéologues. Hein. C'était une divinité qui était assez répandue dans le Proche-Orient ancien à l'époque. Et il semblerait que les Philistins l'avaient adopté comme peut-être leur divinité principale. Donc les Philistins amènent le coffre de l'Alliance de Dieu et ils le placent dans leur temple, dans le temple de leur idole, et ils le placent à côté de leur idole. Alors on peut se demander comment interpréter exactement ce geste. Est-ce que c'est une sorte de trophée offert à leur Dieu, placé à côté de lui en signe de soumission? C'est possible. Ou est-ce que les Philistins se disaient plutôt, on avait déjà un Dieu qui nous a permis de triompher des Israélites, maintenant on en rajoute un deuxième à côté. Donc comme ça, on est vraiment couvert. Possible aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses ne vont pas se passer comme les Philistins l'avaient prévu. Verset 3, les Ashdodides, donc, c'est-à-dire les habitants de la ville de Philistie où le coffre a été emporté, se levèrent de bon matin. Dagon était tombé face contre terre devant le coffre du Seigneur. Donc ils retrouvent leur idole dans une position de soumission au coffre du Seigneur. Alors, bien évidemment, on est dans le registre du symbole. Ça s'est vraiment passé, hein, comprenez-moi bien. Mais l'événement est symbolique. Ce n'est pas Dieu qui est là, matérialisé. Il n'est pas incarné dans ce coffre. On n'est pas dans une sorte de combat des dieux. Mais Dieu utilise un symbole fort pour manifester sa divinité, par contraste avec la vacuité, le ridicule de ce pseudo-dieu qui n'est qu'une idole construite par l'homme. Alors, dans un premier temps, à la limite, les Philistins peuvent croire à une coïncidence, un accident bizarre par lequel leur idole serait tombée, un tremblement de terre, je ne sais pas quoi. Donc ils le remettent à sa place. Mais le lendemain, le doute n'est plus possible. Dagon gît à nouveau face contre terre. Et cette fois, la statue a perdu sa tête et ses mains. Là encore, je pense qu'on fait fausse route si on voit ici un simple récit primitif avec une sorte de combat entre deux dieux rivaux. C'est peut-être ce qu'on pourrait penser juste à la première lecture. Mais dans cette chute de l'idole, dans le fait que ses bras et sa tête soient coupés, il y a plutôt, je pense, le verdict de Dieu sur l'idolâtrie, contre l'idolâtrie humaine. Le message clair que cette idole ne peut rien faire, ne peut rien penser, ne peut rien dire. Elle n'a pas de tête, elle n'a pas de bras. Elle n'est qu'un objet. Elle n'est que le produit de la superstition des hommes. Alors les Philistins comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait deux fois qu'ils retrouvent leur idole par terre. Mais au lieu de s'interroger sur le sens de ces symboles, ils réagissent à nouveau par la superstition. Verset 5, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent pas sur le seuil de Dagon jusqu'à ce jour. Ce verset nous parle sans doute d'une pratique selon laquelle les prêtres de Dagon sautaient par-dessus le seuil du temple pour ne pas marcher dessus. Donc ça peut donner une image un peu comique. Mais de fait, il y a des indices archéologiques et historiques qui attestent ce genre de pratique. C'était un peu, ça porte malheur, hein, donc on va pas marcher là où l'idole est tombée. Encore une fois, quand on lit ce texte aujourd'hui, on peut avoir l'impression que tout ça, c'est bien primitif et que nous, aujourd'hui, on vit dans une époque illuminée par la connaissance et qu'on ne tomberait certainement pas dans ce genre de panneaux de superstition. Mais si on considère le cœur de ce qu'ont fait les Philistins, on s'aperçoit qu'ils ont confondu le créateur et la créature. Et c'est ça qui est au cœur même de l'idolâtrie, selon la Bible. Et dans notre civilisation moderne et occidentale, cette confusion est omniprésente. D'une part, l'homme cherche à donner un sens à son existence par ce qu'il fait, par ses œuvres, par ses accomplissements, par ses projets. De même qu'à l'époque, on construisait et on faisait des choses et on estimait que c'est ça qui donnait un sens à la vie. Alors ça semble logique à première vue, hein, de donner soi-même un sens à son existence par ce qu'on fait. Et pourtant, d'après la Bible, c'est une erreur fondamentale. Le sens de notre vie ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans celui qui nous a créés. Et ça, ça va vraiment contre notre nature. C'est en relation avec notre Créateur que nos œuvres, ce que nous faisons, peut prendre son sens authentique. Il ne s'agit pas de mépriser les œuvres humaines, loin de là, mais ces œuvres prennent leur sens en relation avec le Créateur. Les Philistins ont voulu invoquer la transcendance, ils ont voulu mettre le divin de leur côté en construisant une idole, mais cette idole s'est révélée d'une inanité totale. Sa chute l'a montrée telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire sans bras ni tête, un vulgaire objet cassé. Alors aujourd'hui à Paris, il n'y a pas grand monde qui se construit des statues pour les adorer, encore que. Mais si on réfléchit à ce qui motive la vie des gens, et peut-être à ce qui motive la vôtre, et à ce qui motive la nôtre, en tout cas de temps en temps, ben n'est-ce pas la conviction qu'il faut rentabiliser notre vie, d'une certaine façon? Il faut conférer soi-même un sens à notre existence, en agissant selon notre volonté et en se considérant soi-même comme le juge ultime de notre vie. Et si c'est le cas, on est dans un glissement, peut-être sur le point de faire de nous-mêmes notre propre Dieu. Peut-être que nous faisons complètement de nous-mêmes notre propre Dieu. Les Philistins avaient construit une statue sur laquelle ils projetaient le sens de leur vie. Et quant à nous, bien souvent, on n'a même pas besoin de statue. On est devenu nous-mêmes notre propre idole. On peut d'ailleurs être très attaché à la religion, à la foi même, mais avoir tendance à intégrer celle-ci dans le cadre de nos choix de vie, sans comprendre que Dieu, le Créateur vivant et vrai, nous invite tout entier, tel que nous sommes, à venir à lui. Ce sens ultime que nous cherchons à contrôler par nous-mêmes, eh bien Dieu nous invite à le placer en lui. Et c'est un choix qui coûte, qui nécessite un renoncement à soi, mais qui nous permet de retrouver la vie pour laquelle nous avons été créés. Il est significatif, je trouve, que l'idole Dagon s'effondre non pas devant une autre statue, une représentation de Dieu, quand bien même ce serait le vrai Dieu. D'ailleurs, vous savez que dans les 10 commandements, Dieu a bien interdit cette représentation de lui-même. Donc il ne s'agit vraiment pas d'un combat entre Dieu, mais c'est devant un symbole de la présence de Dieu et de l'alliance de Dieu que l'idole s'effondre, devant un symbole de la relation qu'il désire entretenir avec son peuple. L'avantage, entre guillemets, de se créer une idole, c'est que ça nous permet d'avoir un Dieu contrôlable, une divinité qui s'accommode à nos idées et à nos humeurs. Une divinité à laquelle on peut accorder de la place, même une place de choix dans notre vie, mais c'est une place parmi d'autres. Et c'est plus facile de faire ça, bien sûr, que de se soumettre à un Dieu qui nous dépasse et qui est authentiquement un Dieu dont l'existence précède la nôtre et dont l'existence fonde la nôtre. Or, la suite du texte nous rappelle que, justement, nous ne pouvons pas maîtriser Dieu. Et le texte nous donne un aperçu des conséquences si nous essayons de l'instrumentaliser comme une vulgaire idole. Et j'en viens au deuxième point, la présence de Dieu, bonne ou mauvaise nouvelle. Les Philistins ont confisqué le coffre de Dieu en espérant qu'il leur donnerait un pouvoir supplémentaire, que ça serait comme un porte-bonheur, en fait, pour eux. Mais c'est raté, c'est vraiment raté. Verset 6, « La main du Seigneur se fit pesante sur les Ashdodites, il sema la dévastation parmi eux et les frappa de tumeurs à Ashdod et dans son territoire. » Et la réaction ne se fait pas attendre, verset 7. « Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Ashdod dirent, « Le coffre du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il nous traite durement, nous et Dagon, notre Dieu. » On note au passage qu'ils confondent à nouveau le coffre et Dieu. Ils imaginent que c'est le coffre de Dieu qui les traite durement. Ils sont vraiment dans leur schéma idolâtre. Comme ça se passe mal à Ashdod, la décision est prise d'envoyer le coffre dans une autre ville du pays, voir comment ça se passe là-bas, à Gath donc. Alors une petite parenthèse géographique, qu'on sache un peu de quoi on parle. En fait, la Philistie, c'était une... Désolé, c'est vraiment les images sont floues. Mais c'était une confédération de principautés, un petit peu comme les Émirats arabes unis aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire il y avait des princes, des émirats, enfin, ça ne s'appelait pas des émirats, mais des principautés plutôt. Et puis, chaque territoire avait son prince, mais ils étaient quand même unis. Ils faisaient partie d'une puissance régionale qui s'appelait la Philistie. Et c'était près de Gaza. Hein, il y avait déjà des problèmes à l'époque dans ce coin-là. Donc c'est dans cette région-là que tout cela se passe. Donc les Philistins décident d'envoyer le coffre d'Ashdod à Gath. Vous voyez, Ashdod, c'est près de la côte, là, sur la gauche, vers l'ouest, donc, et Gath un peu plus à l'est. Ils pensaient que donc qu'une délocalisation pourrait peut-être régler le problème, mais pas du tout. Verset 9, « Après ce transfert, la main du Seigneur fut sur la ville, et ce fut une panique terrible. » Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent une éruption de tumeur. On va revenir sur ce fléau, mais là, la décision est prise d'envoyer le coffre dans un autre lieu encore, peut-être encore moins recommandable. Je ne sais pas si c'était le 9-3 de l'époque, mais c'est la ville d'Écron qui aura le terrible privilège d'accueillir ce coffre. Et là encore, le parachutage est raté. Les Écronites ont vu ce qui s'est passé à Ashdod et à Gath. Et ils disent non merci. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas particulièrement envie d'avoir le coffre de l'Alliance chez eux. Verset 10. On a transféré chez nous le coffre du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils se disent, on a vu comment ça s'est passé ailleurs, ça ne va certainement pas mieux se passer chez nous. Et ils se rendent à l'évidence, il faut rendre le coffre à Israël. L'ironie est frappante. Les Philistins pensaient que le coffre leur porterait bonheur. Et ils voyaient aussi ce coffre comme un trophée de guerre, quelque chose qui leur rappellerait leur triomphe contre Israël. Et au lieu de cela, la présence du coffre ne leur a apporté que des malheurs, et ils en sont réduits à rendre leurs biens à ceux qu'ils avaient pourtant vaincus. Quand on lit ce texte aujourd'hui, donc là encore, on a l'impression que ce sont des choses bien primitives qui nous sont décrites. Et on peut avoir l'impression d'un Dieu un peu primitif, lui aussi, qui envoie des tumeurs pour punir un peuple, etc. Je crois que ça serait à nouveau faire fausse route. Il me semble que ce qui se passe dans ce texte, c'est que Dieu retourne la superstition des Philistins contre eux. Ils pensaient pouvoir le contrôler, instrumentaliser sa puissance, mais ils sont renvoyés à leur incapacité totale
de le faire. Il voulait une bénédiction, il voulait de la prospérité, ben, il récolte un fléau à la place. Et la présence du Dieu d'Israël, qu'il pensait être une bonne nouvelle, s'avère être pour eux une très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'ils voulaient le Dieu d'Israël avec eux, ben, ils l'ont avec eux, et ça se passe très mal pour eux. Mais au-delà de ce jugement ponctuel et spécifique de Dieu contre les Israélites et ensuite contre les Philistins, la Bible nous enseigne que Dieu pose un regard de jugement sur l'homme qui adore la créature au lieu du Créateur. Ce n'est pas un acte neutre devant Dieu. Et pas besoin pour Dieu d'envoyer des tumeurs. Ici, on a un exemple bien ponctuel dans un contexte bien précis. Mais en fait, Dieu livre l'homme à sa propre désobéissance. Il nous livre à nous-mêmes si nous vivons dans l'idolâtrie. Il nous livre au jugement que nous infligeons nous-mêmes si nous vivons hors des projets du Créateur. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans sa lettre aux Romains, au chapitre 1, les versets 22 à 23, et puis le verset 28, dans un passage consacré justement à l'idolâtrie des païens, à l'idolâtrie humaine. Et l'apôtre écrit, en parlant des hommes en général, « Se prétendant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement, de sorte qu'ils font des choses indignes. » Si vraiment nous tenons à vivre notre vie sans Dieu, Dieu nous livre à cette terrible décision, à notre propre choix. Et je dis terrible parce que la Bible affirme que l'homme devra un jour rendre des comptes à son Créateur. Et ce jour-là, ce qui sera décisif, ça ne sera pas la somme de nos accomplissements, ni d'ailleurs de nos défaillances, mais ce sera la présence ou l'absence de notre relation avec le Dieu vivant. Relation qu'il nous offre et qu'il nous offre comme il le souhaite, en Jésus-Christ, son Fils. Et j'y reviens dans un instant. Pour les Philistins, la présence de Dieu s'est avérée une très mauvaise nouvelle. Et lorsqu'on choisit les idoles, que ce soit des idoles primitives, entre guillemets, ou des idoles sophistiquées, plutôt que le Créateur, eh bien la présence et l'existence bien réelle de Dieu s'avèrent une très mauvaise nouvelle pour nous. Parce que Dieu ne s'effacera pas devant ceux qui cherchent à l'effacer. Dieu ne s'excusera pas d'exister. Il ne s'excusera pas d'être souverain devant ceux qui rejettent sa présence et sa souveraineté. Et ce serait d'autant plus dramatique que nous restions en dehors d'une relation avec Dieu alors qu'il a fait, lui, l'impensable pour se réconcilier avec nous. Les Israélites avaient le coffre de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu, mais des siècles plus tard, Dieu s'est incarné dans la personne de son Fils Jésus-Christ. L'apôtre Jean a pu écrire, dans ce texte bien connu, la parole dans le contexte, c'est le logos, le principe suprême de vie. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire. Jean 1, 14. Et l'apôtre Paul, à nouveau lui, écrira, je vais y arriver, « Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs péchés, en mettant en nous la parole de la réconciliation. » Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Plus besoin de coffre de l'Alliance, plus besoin du symbole. Nous avons la réalité en Jésus-Christ. La réconciliation avec notre Créateur, c'est l'Évangile même, c'est le cœur du message chrétien. Mais cette réconciliation implique de reconnaître au préalable que Dieu est Dieu et de cesser de le traiter comme une idole. Et c'est un message que nous, pour ceux d'entre nous qui sont déjà chrétiens, que nous devons nous rappeler également. Parce qu'on peut avoir tendance à traiter Dieu comme une idole. Ça implique de recevoir Dieu tel qu'il s'est donné par la foi en son Fils, qui est Dieu incarné, mort et ressuscité, pour nous sauver de son propre jugement. Alors je ne sais pas où en est chacun ce soir dans son cheminement spirituel, mais je vous invite à réfléchir à cette question. Est-ce que vous avez demandé à Dieu de venir s'ajouter à votre vie? Est-ce que vous l'avez intégré dans votre système de pensée? Ou bien, est-ce que vous avez accepté de tout lui donner, de lui donner votre personne entière, de A à Z, pour retrouver ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire sa présence ?